voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Pour comprendre les fondements de la pédagogie de Maria Montessori, il faut avant tout se préparer soi en tant qu'adulte éducateur. Maria Montessori écrivait « Le premier pas pour résoudre entièrement le problème de l'éducation ne doit pas être vers l'enfant, mais vers l'éducateur. » La pédagogie Montessori apporte une réflexion sur notre vision de l'enfant dans la société, dans la famille et dans le monde. C'est une vision globale de l'homme et de sa projection dans l'avenir. Pour cette deuxième partie de l'émission La Voix du Kaizen consacrée à l'éducation, donnons la parole à Nourfetta, formatrice en pédagogie qui développe les fondamentaux de Maria Montessori.
Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres sensoriels. Ça veut dire que tous les éléments, nos sens, en fait, ils vont nous informer. Ils vont nous informer sur le monde extérieur. Et il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques, il y a des lois, il y a bien d'autres, hein, il y en a beaucoup. Et en fait, l'enfant, à travers ses sens, il va pouvoir les rencontrer. Il va pouvoir, lorsque l'enfant va construire... en fait, rien que le fait dans la partie sensorielle du travail de Montessori, il va avoir des cubes, il va avoir des choses. Mais le fait de porter un cube, par exemple, il va avoir 10 cubes qui vont être de différentes tailles, proportionnelles. Ça veut dire on va avoir une base de 10, hein, qui va se faire. Enfin bon. Et en fait, l'enfant, lorsqu'il va le porter, lorsqu'il va le prendre, déjà, rien que le fait de l'attraper, il va avoir de l'information. Il va avoir l'information de la taille, de la forme, du poids, de la texture, etc. Et Montessori, elle dit que les mains, en fait, c'est une extension du cerveau. C'est elles qui vont venir nous apporter énormément d'informations. Et donc, lorsque vous allez travailler sur du plat, lorsque vous allez travailler sur des feuilles de papier, eh bien, en fait, vous allez retirer toutes les dimensions sensorielles de l'apprentissage. Et effectivement, vous n'allez avoir qu'une partie infime, très petite, de la connaissance à travers le papier. Alors qu'à travers le concret, à travers la manipulation, à travers les activités, l'enfant va prendre une mesure beaucoup plus large. Et en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que chaque enfant va aller chercher ce qui l'intéresse. Ça veut dire qu'à travers un seul matériel, chaque enfant ne va pas découvrir les mêmes choses. Il y aura une base commune, hein, il y aura un socle commun, mais après, les enfants peuvent faire des explorations, des expérimentations supplémentaires par rapport à leur intérêt. Et on voit bien qu'on est tous différents, qu'on va aller chercher des choses complètement différentes. Et c'est ça qui fait la richesse du monde, en fait. Et c'est ça qui fait la richesse de l'humanité.
Je crois me souvenir, tu disais dans une conférence, donc dans une classe Montessori, on va mettre à disposition des jeux pour que les enfants puissent vivre l'expérience, hein, à travers la sensorialité. Mais on ne va pas mettre, s'il y a 30 enfants, il n'y aura pas 30 fois le même jeu. Il sera là qu'une seule fois.
Absolument, ça c'est effectivement, merci, parce que c'est une notion qui est fantastique. Oui, c'est vrai, voilà, Montessori, on ne va pas, parce qu'il y a 20 enfants, on ne va pas avoir 20, 20 tours roses, hein, qui est une activité Montessori. Eh bien, il n'y en aura qu'une. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que de ce fait-là, eh bien, chaque enfant qui aura envie de la faire, parce qu'effectivement, ils ont envie d'aller explorer la tour rose, et eh bien, ils vont devoir attendre. Et d'avoir le plaisir de pouvoir manipuler, eh bien, il y a l'acceptation d'attendre. Et les enfants, sans avoir besoin de leur expliquer qu'il faut être patient, qu'il faut attendre son tour, etc., etc., eh bien, finalement, facilement, ça se met en place naturellement, parce qu'il n'y a qu'un objet. Et que cet objet, on va devoir le partager. Et que comme on a envie de le faire, parce qu'on aime le faire, parce qu'il nous apporte tellement d'informations, parce qu'on est curieux, et qu'on a envie de répondre à toute cette curiosité, eh bien, on va attendre. On va attendre son tour. Et on ne va pas l'abîmer, parce qu'on a envie de le refaire. Et on sait que d'autres vont l'utiliser. Il y a une forme comme ça qui se met en place de façon complètement naturelle. Et c'est vrai que s'il y avait des objets pour tout le monde, eh bien, quelque part, eh bien, quel intérêt de faire, entre guillemets, peut-être attention. En tout cas, je ne sais pas. Mais le fait qu'il n'y en ait qu'un, eh bien, ça va développer chez nous la patience, l'attente, le respect, etc. Et alors, sans avoir besoin de l'expliquer, parce qu'on l'expérimente, dans le groupe. On se rend compte que si un objet est perdu, mais il est perdu pour tous. Et donc, c'est vrai qu'on est responsable.
Dans tout ce qu'on développe depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de la petite enfance. Jusqu'où va Montessori ? À quel moment s'arrête cette pédagogie ?
Alors, en fait, on l'a jusqu'à... principalement, elle a beaucoup travaillé de 0 à 6 ans, puisque en plus, c'est un âge que l'on ne connaît pas très bien. Alors, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que beaucoup de gens vont se dire, mais si, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, etc. C'est vrai, hein. Mais en fait, on est quand même encore... dans la société, en règle générale, c'est encore un être un peu inconnu pour nous. Et donc, c'est vrai que on a encore un gros travail à faire à ce niveau-là. Après, Montessori, ça va jusqu'à la fin des études. Hein. Mais c'est vrai que Montessori propose de passer, par exemple, je donne juste un exemple, et par exemple, de passer le bac à 15 ans. Il n'y a aucune raison d'attendre 18 ans. Parce qu'elle considère qu'à travers l'apprentissage de manière concrète, à tous les niveaux, hein, tout est possible au niveau concret. Hein, l'abstraction, elle vient grâce au travail concret. Donc une fois qu'on a exploré, expérimenté, l'abstraction, elle est beaucoup plus naturelle. Un être humain, il est efficace. Et donc on ne va pas répéter à vitam aeternam l'activité concrète. On en a juste besoin pour comprendre. Une fois qu'on a compris... On crée un concept et ce concept, ça devient une abstraction qu'on l'envoie garder. Donc, naturellement, l'abstraction se fait. Et donc, dans ce sens-là, Montessori, elle considère qu'une fois que l'enfant a beaucoup travaillé, manipulé, à 15 ans, en fait, il a ses connaissances largement suffisantes pour passer l'examen qui aujourd'hui s'appelle le baccalauréat. Et ensuite, ce qu'elle considère, c'est justement ce corps qui continue à évoluer. Dans son observation, c'est qu'il y a un désir, c'est-à-dire que toute sa petite enfance, il s'est construit et vers 15 ans, en fait, il y a vraiment ce désir d'aller explorer le monde, ça y est. Tout son périmètre le plus proche, voilà, il l'a exploré. Et maintenant, tout d'un coup, il lui reste le monde. Et en fait, il va, lui, il a vraiment ce désir-là. Et elle trouve ça terriblement dommage qu'au moment où ce désir de découvrir le monde, d'essayer de comprendre comment la société fonctionne, comment fonctionne la politique, quels sont les droits, comment développer tout ça, évoluer, que tout d'un coup on l'enferme, on lui fasse passer un examen où justement il doit tout apprendre. Et en fait l'enfant est en conflit, il est tiraillé. Il s'oblige en fait à respecter le fait, parce qu'en plus on leur fait extrêmement peur, parce qu'on leur explique que sans l'examen on est dans une société où voilà, on apporte énormément de stress, énormément de peur à nos enfants, alors que comme je le disais au départ, il n'y a pas d'enfants fragiles, les enfants sont forts. Ils sont là pour conquérir leur environnement, pour proposer de nouvelles choses. Ils sont dans la curiosité, dans l'émerveillement, dans la joie, dans la force. Et donc le fait de constamment être derrière eux pour les obliger à se conformer à des bouts de papier ou à travers l'apprentissage est quand même reste tellement, tellement limité. Et en fait, on avance contre eux, en fait. Et les pauvres, en fait, ils sont tellement sympas qu'ils acceptent tout. Ils acceptent tout et vraiment, ils sont sympas, quoi.
Je sais qu'on parle des fois de cet enfant intérieur. Donc, ce serait ça, l'enfant intérieur. Ce serait de pouvoir retrouver cette force de vie, cette envie d'apprendre, de connaissance et cette curiosité.
Oui, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Je pense qu'effectivement, il est toujours présent. Et lorsqu'on ne l'entend plus, peut-être on peut se poser des questions. Peut-être, effectivement, on peut se dire, tiens, est-ce que je suis vraiment à ma place ?
Et toi, ton enfant intérieur, il est comment ? Qu'est-ce qu'il te dit ?
Alors moi, mon enfant intérieur, il m'encourage beaucoup. et c'est vrai que je suis heureuse, en fait, d'avoir rencontré Montessori. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle. C'est qu'en fait, elle m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur. Rien que le fait que j'ai étudié ce qu'elle a fait, et ensuite de pouvoir travailler avec les enfants, je pense que j'ai consolidé en fait ce plaisir d'être un enfant et d'accepter ma responsabilité en tant qu'adulte, d'accepter ma part dans la société aussi, de ma part d'acteur, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, de quelle manière je veux contribuer, mais aussi cette joie permanente. Je la cherche toujours. Ça veut dire que je n'ai rien envie de faire sans le plaisir, même si c'est des contraintes. Et toutes les contraintes, on peut y trouver du plaisir. Et pour le moment, écoutez, depuis que je teste ça, je dois avouer que j'ai toujours réussi à retrouver à me reconnecter à mon enfant. Et même si je dois passer des heures dans l'embouteillage, même si je dois, etc., etc., dès que je me reconnecte à mon enfant, eh bien, en fait, tout d'un coup, tout devient exploration, tout devient curiosité, tout devient questionnement. Et donc, voilà, et puis, il y a une forme de légèreté qui va se mettre en place. Et c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, et je vis quand même dans la société. Hein. Je suis pas extraite de ça. Je paye des impôts, je fais des choses. Mais je comprends l'utilité. J'essaye de comprendre le sens de tout ça et de notre vivre ensemble. Parce que je trouve ça génial. Je suis impressionnée par le fait de tout ce qu'on peut faire ensemble, que je ne pourrais pas faire seule. Et donc, j'accepte quelques contraintes qui sont liées au groupe aussi.
En fait, Maria Montessori, sa pédagogie, on peut très bien le lire en étant adulte, sans avoir d'enfant. On peut aussi en tirer des informations à titre personnel. C'est presque une philosophie de vie.
Oui, exactement. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai rencontré. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai été... Enfin, depuis plus de 20 ans, hein, vraiment, elle me passionne toujours. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas encore fait le tour. Hein. Il me reste encore tellement de choses à découvrir de ce qu'elle a déjà, elle, exprimé, de ce qu'elle a proposé. Mais je suis tellement comblée de tout ce qu'elle a, de tout ce que j'ai déjà pris, que je me garde des choses pour plus tard. Et donc, effectivement... Alors, par contre, la seule différence... Alors, je ne sais pas, parce que, en fait, moi, comme je l'ai pratiqué... Je ne sais pas, lorsqu'on le fait juste de manière juste philosophique, en fait, lorsqu'on l'apprend juste comme une philosophie de vie, alors ça va dépendre des personnes, hein, parce que chaque personne va avoir des expériences différentes qui vont leur permettre de pouvoir l'intégrer, de pouvoir la comprendre. Moi, il m'a fallu quand même cette expérience avec l'enfant. C'est l'enfant qui m'a éduquée. Je pense que si Montessori m'a passionnée, mais c'est vraiment l'enfant qui est venu m'apprendre comment vivre l'enfant intérieur.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Oui, les parents. J'ai envie de m'intéresser aux parents, parce que les parents ont... Enfin voilà, l'éducation de l'enfant, c'est pas que l'école, c'est surtout les parents aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est parent pour bien faire ?
Déjà, de ne pas avoir peur. Parce qu'on est dans des sociétés où... On aimerait s'adapter à quelque chose qui est contre nature. Alors évidemment, c'est un grand mot de le dire comme ça, mais lorsque j'observe ce que Montessori propose, ce qu'elle a observé, hein, franchement, je pense qu'elle s'est vraiment rapprochée de l'universel. Et quand on la regarde, eh bien, notre société ne correspond pas à notre besoin. Notre société ne correspond pas à nos besoins. Et donc, on se retrouve en fait à devoir s'adapter. Alors on va me dire, oui, mais c'est la société. Je suis complètement d'accord. Hein, on évolue ensemble, on va tous avancer et donc effectivement il faut des pionniers pour que les choses, que le message passe et que tout le monde l'entende et qu'au bout d'un moment en fait, ça devienne simplement évident et que ce soit une pratique normale. Aujourd'hui c'est pas le cas, je pense qu'on est encore, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas encore cette connaissance, on n'a pas encore cette compréhension. On est en cours, hein, ça, on voit, elle se développe, il va falloir encore beaucoup de temps je pense pour qu'elle se mette en place, mais de toute façon, aujourd'hui, ne pas avoir peur déjà. Oser aller voir, oser s'informer, oser regarder. Aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qui est présent dans l'éducation est fait pour le monde d'aujourd'hui. Les enfants qui naissent, les enfants qui vont à l'école seront présents dans le monde de demain. Ce monde de demain, eh bien, on ne le connaît pas. De ce fait, effectivement, n'ayez pas peur. Ce monde de demain, c'est nos enfants qui vont le construire. Plus vous allez leur proposer, on est des êtres curieux, on est des êtres forts, et plus vous allez oser leur permettre d'explorer, de se connaître, d'oser, de tester, etc., et plus le monde de demain sera beaucoup plus intéressant.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Donc, mais c'est vrai, la première chose qui me vient en tête, en fait, alors je fais aussi des formations. Et dans les formations, voilà, on travaille tout ça. Ce que je fais pendant les formations et même pendant les conférences, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'observer ce qu'a observé Montessori, de montrer qu'en fait, tout est observable. Qu'en fait, si on veut le regarder, on le voit. Mais simplement, on ne sait pas regarder. Et je le sais parce que moi, j'ai mis du temps à regarder là où il fallait regarder. Et effectivement, quand on regarde, c'est là, hein, c'est présent, hein, c'est au vu de tous, en fait.
Et des exemples.
Et ben, des exemples, par exemple, les périodes sensibles. On peut les observer et tous les parents diront « Ah oui, c'est vrai !» Eh bien, c'est parce que l'enfant va répéter une action. Il va la répéter, et la répéter, et la répéter. Et on se dit « Mais pourquoi il recommence et recommence et recommence ?» Tous les parents ont pu observer ça. Et chez Montessori, eh bien, c'est le signe que l'enfant est dans une période sensible et qu'il faut absolument le laisser faire parce qu'il est dans l'exploration, il est dans le test, il est en train de tester énormément de choses. Nous, on a l'impression qu'il essaye simplement de mettre un objet, enfin une boîte dans une boîte, ou de fermer un couvercle, ou de, enfin, une chose banale, alors que lui, en fait, est en train d'explorer plein de choses. Comment ça se met en place, quels sont les éléments pour, quelles sont la force qu'il faut, peut-être le positionnement, peut-être de mieux l'attraper, peut-être de l'attraper différemment. Donc il y a un million de choses que lui va explorer, alors que nous, on le voit faire une action. On a l'impression qu'il ne fait que cette action est juste répétitive. Alors que lui, en fait, non, il est complètement dans l'exploration. Et c'est la répétition d'une action, tous les parents ont pu le constater. C'est assez surprenant.
Il y a quelque chose qui émerge aussi aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on met de plus en plus au cœur la nature. On parle de la nature, les parcs, faire jouer l'enfant dans un environnement naturel. Alors peut-être qu'en 1800, au début du 19e siècle, là, c'était pas pareil parce qu'on n'était pas dans des villes bétonnées. Il y avait cette connexion à l'environnement qui était beaucoup plus proche. On observait ce qu'on voyait autour de nous, les papillons, les oiseaux. Ils étaient là, ils étaient présents. Aujourd'hui, le cheminement a fait qu'on s'est quand même pas mal détourné de l'observation, du langage de la nature. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'environnement naturel dans l'éducation d'un enfant ?
Essentiel, vital. L'importance du contact avec la nature résonne en nous. Donc automatiquement, comme je disais, en fait, dans cette construction, dans cette énergie vitale, dans ce désir d'apprendre, dans cet émerveillement, la nature joue un grand rôle, elle a une grande place. Si vous regardez ce que l'enfant peut observer dans une maison, et ce que l'enfant peut observer dans un jardin, dans un bois, à la montagne, dans le désert, enfin, quel que soit l'environnement géographique, on voit bien que la maison, c'est limité quand même, et surtout la télé. Hein, on en revient à l'idée de la sensorialité. On voit bien que la tablette et la télé ne vont pas permettre cette sensorialité de répondre à tous nos sens et aux odeurs, etc., etc. Et donc, plus on va être en contact, plus l'enfant va être en contact avec la nature, et plus en fait, il y a tellement de choses à apprendre. Une graine, elle va mettre tellement de temps. Et cette patience dont on parlait tout à l'heure avec le matériel, où il y avait un seul matériel, en fait, on le voit dans la nature aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on va être confronté à quelque chose qui pousse, eh bien, on va venir voir tous les jours, mais on va devoir attendre longtemps avant de voir quelque chose. Et puis, la magie va s'opérer et la nature va nous proposer quelque chose. Et c'est juste, c'est vrai, c'est merveilleux. Et Montessori même, donc, cette place de la nature est très, très importante. Et déjà, chez le jeune enfant, elle dit même qu'en fait, il peut aller jouer sous la pluie. Ça va renforcer son système immunitaire. Et pour lui, c'est une vraie découverte. C'est un vrai plaisir. C'est des choses... On a peur de la maladie. Alors donc, automatiquement, on enferme les enfants. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, leur système immunitaire va s'affaiblir. Donc automatiquement, on va d'autant plus avoir raison d'avoir peur. Et de la même façon, pour l'enfant qui va grandir, la première chose qu'elle propose avant que l'enfant... Donc à 15 ans, avant que l'enfant parte à l'université, c'est de travailler la terre. Elle dit que ce contact avec la terre avant de pouvoir aller dans le monde professionnel, il est important parce qu'il doit savoir en fait qu'est-ce qui est essentiel dans ce monde. Et que cette terre, eh bien, plus on va la respecter parce qu'elle est essentielle pour nous. C'est elle qui va nous apporter tout ce dont on a besoin. Et donc prendre cette conscience avant de partir, avant de la laisser, puisqu'on ne va pas tous être agriculteurs. Et donc avant de la laisser, eh bien, il faut faire cette expérience. Et vous voyez, elle revient toujours au concret avant de créer ce concept. Et donc, à partir de 15 ans, non seulement on va travailler la terre, mais on va vivre ensemble. Elle propose aux enfants de 15 à 18 ans de vivre ensemble, d'apprendre à créer cette communauté. Qu'est-ce que c'est que cette communauté ? C'est la société. Et donc, comment est-ce qu'on vit dans une société ? D'avoir fait cette expérience en direct, à toutes les échelles, ça veut dire de la terre à la vente, à l'utilisation de l'argent, à l'investissement, à savoir utiliser, etc. Eh bien, comme ça lui donne une expérience concrète, l'enfant, lorsqu'il va rentrer dans la vie active, lorsqu'il va prendre sa place dans la société, eh bien, il aura une vraie compréhension de cet échange, de ce groupe, de l'importance du groupe et comment le préserver.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.